Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Radio Exterior de España.
L'émission en français.
Confluence hispanique, une collaboration Casa de Velázquez, Radio Extérieure d'Espagne.
Polygraphe.
La modernisation de la police.
Recueil écrit en prison.
Relations diplomatiques.
Confluence hispanique.
Dans le champ de la citoyenne.
Caïman Barbudo.
Le mouvement autonome.
Entre l'université et la société.
Une collaboration Casa de Velázquez, Radio Extérieure d'Espagne.
Confluence hispanique, une collaboration Casa de Velázquez, Radio Exterior d'Espagne. Mathieu Roule, membre scientifique de la Casa de Velázquez. Sujet, Espagne, démocratie représentative, démocratie participative. Un programme proposé par Imenuezar.
Cacerolas vacías, pero llenas de razón, emitiendo la luz de tu corazón. Hoy no tocamos las palmas, las saltamos al viento, viento, viento.
Se enciende la llama.
Llama ya,
Monsieur Roule, le surgissement de la formation politique Podemos découle-t-il du mouvement contestataire du 15 mai ? Podemos est-il l'expression politique du mouvement ?
Oui, disons que c'est une des conséquences du 15 mai. Les fondateurs de Podemos étaient impliqués au début dans le mouvement des indignés, mais l'ensemble du mouvement des indignés ne s'est pas investi dans Podemos. Il y a beaucoup d'autres conséquences de ce mouvement. Certains se sont concentrés sur des revendications liées à des politiques sociales, donc les marées, la marée verte, pour l'éducation, par exemple, la marée blanche pour la santé, pour le droit à la santé. Ça, c'est aussi une des conséquences. Il y a d'autres personnes qui ont évolué vers les mouvements autonomes, donc travailler en autogestion des services à la population, mais sans lien avec l'administration. Donc, non, on ne peut pas dire que le mouvement des indignés est devenu Podemos. Mais Podemos est un des produits du mouvement des indignés. Ça, ce serait plus correct. Et il y en a d'autres qui ne se sont pas investis dans la politique des partis, mais plutôt dans la lutte sociale. Il y a aussi la plateforme pour les affectés par le crédit immobilier, de laquelle vient l'actuel maire de Barcelone. Donc voilà, non, ce n'est pas, le mouvement des indignés n'est pas devenu Podemos. Mais Podemos surgit en partie du mouvement des indignés.
Alors, Podemos surgit donc en partie du mouvement des indignés, donc d'un mouvement qui prônait une démocratie participative. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec l'évolution de Podemos, la présence de ces gènes participatifs reste forte, ou alors plus on professionnalise la politique, moins la démocratie participative est présente?
Je pense que l'évolution de Podemos va dans le sens de la deuxième proposition, c'est-à-dire la structuration en force politique diminue les espaces de participation pour des raisons. Ce sont des choix des dirigeants, mais qui sont confrontés aussi au fonctionnement du système des partis et à un besoin d'efficacité. Cela dit, il y a une marge de manœuvre. Et ce qu'on constate, c'est au sein de Podemos, ce qui a d'ailleurs amené certains sympathisants, certains militants à s'en éloigner, une évolution vers un système beaucoup plus vertical, avec des décisions qui se prennent à la tête, et qui ne se prennent plus de manière assembléiste comme c'était le cas au début. Donc, au niveau du fonctionnement interne de Podemos, il y a un éloignement assez clair du système assembléiste qui fonctionnait.
Qui a été à la base.
Voilà, qui était à la base.
Donc, les cercles.
Les cercles citoyens.
Les cercles citoyens, les cercles de base. Et on a l'impression que là, on part d'une vision de démocratie participative, mais qu'ensuite ça s'effiloche.
Il y a toujours, les cercles fonctionnent plus ou moins bien selon les communes, ils existent toujours et ça reste des lieux de débat. Et Podemos a aussi créé plusieurs outils pour des débats en ligne avec ses sympathisants. C'est de tous les partis, c'est celui qui, sans aucun doute, a créé une plateforme numérique la plus complète pour ces échanges. Mais dans quelle mesure cela influence les décisions qui sont prises, ce n'est pas très clair. Et on voit notamment ce qui a été critiqué par d'autres partis politiques, ce qu'on appelle en France des parachutés, candidats.
Oui, des candidats très sympathiques, d'ailleurs, comme le caméraman du Congrès des députés, mais qui s'est présenté pour Burgos, n'ayant aucun lien avec Burgos.
Ou donc, par exemple, l'ancien chef de l'état-major, le général Rodriguez, qui s'est présenté à Saragosse sans avoir de lien depuis très longtemps avec la ville. Et sans que cette candidature ait surgi des cercles citoyens de Saragosse ou même d'Aragon. Donc il y a
des frictions,
des contradictions qui débouchent sur des frictions.
No se trata de hacer un ejercicio de populismo ni de demagogia. Una convocatoria electoral es una garantía democrática.
Decirle a Luciano, oiga, vuelva a votar porque no he sido capaz de interpretar aquello que me dijo con su voto el pasado 20 de diciembre.
Con los ciudadanos hay que ser serio y ser coherentes.
La gente pues no vota sin argumentos.
De momento hay que pactar con la gente.
Et je me vais appliquer à elle.
Vous partez d'un constat que jusqu'à présent, le système, les systèmes démocratiques ont reposé sur de la démocratie représentative. Les citoyens élisent des représentants et ces représentants sont les porte-parole des citoyens. Bon, ça c'est dans le cas idéal. Souvent, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Mais vous nous signalez également que depuis la fin du XXe siècle, ce système est remis en question. Quels sont les aspects les plus critiquables de ce système ?
L'éloignement des représentants du peuple. Le fait que c'est les partis et les élus qui viennent de ces partis perdent le contact avec la société et donc prennent des décisions qui ne sont pas qui ne répondent pas aux demandes de cette société et aux besoins de cette société. C'est ce qui a été le plus critiqué. Une perte d'adéquation des décisions politiques au vu des demandes et des besoins de la société. C'est ce qui a été le plus critiqué.
Et donc, ce qui est proposé, c'est plus de démocratie participative. Autrement dit, des citoyens qui réellement prennent la décision de s'intéresser à la politique, c'est-à-dire à la gestion de la société, et qui proposent des choses. Alors, vu comme ça de l'extérieur, on se dit, est-ce qu'il est possible de faire un mix, comme on dit maintenant, entre les deux ? Est-ce que c'est viable ? Est-ce qu'on peut en même temps avoir une démocratie représentative et de la démocratie participative ? Ou alors, il faut choisir parce que sinon, on reste au milieu du gué ?
La plupart des expériences qui ont été menées à bien, je dirais même toutes, font justement ce mix. C'est-à-dire, on introduit de la démocratie participative dans les systèmes qui restent majoritairement représentatifs. Et ça ne pose pas de problème. Donc c'est compatible. D'ailleurs, la plupart des partisans de la démocratie participative ne demandent pas une élimination des organes de représentation. Il demande juste à pouvoir influencer les décisions qui sont prises par ces organes de représentation, à pouvoir faire de la codécision. Donc, d'être associé au processus de décision et au processus postérieur de gestion. Du coup, la combinaison des deux est tout à fait envisageable. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Après, il y a un problème de degré. Dans quelle décision permettons aux associations et aux citoyens de participer. Est-ce que c'est à la marge, ce qui a été le cas jusqu'à présent, ou est-ce qu'on les laisse participer à des décisions qui ont un impact plus grand sur la société ?
Oui, alors très souvent, on se dit, d'accord, les options participatives sont très bien, c'est démocratique, tout le monde s'exprime, mais est-ce que ce n'est pas réservé à de petits groupes ? Est-ce que ce n'est pas réservé à de petites sociétés, petites en nombre, je veux dire, parce qu'il y a une dynamique du groupe qui plus le groupe est grand, moins la participation est possible.
Ça pose un problème de mise en œuvre, effectivement. Si on passe à une échelle au-delà du quartier ou de la commune, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est possible. Par le biais de systèmes de tirage au sort des citoyens qui s'impliquent, par le biais du volontariat aussi, c'est tout à fait possible d'y arriver. Mais c'est vrai que ça pose plus de problèmes. La région d'Aragon, qui a été sur la deuxième partie de la décennie passée pionnière en Espagne en termes de participation, a mis en place beaucoup de processus participatifs pour élaborer des programmes, pour élaborer même des lois au niveau régional. Et ce problème s'est posé. Et on se retrouvait souvent avec une participation très importante d'autres administrations publiques, représentants de ministères, de communes, et peu de la société civile. mais petit à petit ça a évolué et on a permis la participation, ou on a en tout cas promu la participation d'organes de représentation sociale, mais toujours pas de citoyens, citoyens communs, quoi, l'homme de la rue. À partir du moment où ça sort du cadre local, il est difficile de l'inclure. Mais à mon avis, ce n'est pas qu'un problème de viabilité dans les faits, mais un problème d'une part de communication, d'autre part d'intérêt du sujet qui est mis à discussion.
J'étais d'ailleurs en train de penser à la théorie de la communication d'Escarpi, un livre qui date déjà d'au moins 30 ans et qui expliquait bien ce problème de la circulation d'abord de la communication et de la possibilité d'agir sur ce qui est communiqué, et que plus le groupe s'étendait, plus la situation de blocage devenait forte et que les gens de base ne pouvaient pas s'exprimer.
Et par rapport à ça, si vous me permettez, il y a notre... vous parlez de groupes réduits, il y a aussi le problème que ce sont souvent des acteurs déjà constitués qui tirent profit de ces nouveaux espaces de participation. Des associations, dans des personnes qui occupaient déjà l'espace public, qui voient là une nouvelle arène où pouvoir porter leurs revendications. Mais on a beaucoup de mal à introduire des citoyens qui jusque-là n'étaient pas impliqués. Alors on ne peut pas le faire de manière forcée, il faut que ce soit volontaire, mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc se posent après des problèmes de... est-ce que les citoyens qui ont participé sont représentatifs du ressenti de l'ensemble de la population? Évidemment non, mais eux ont fait la démarche de participer,
de s'exprimer.
Me gustas democracia porque estás como ausente con tu disfraz parlamentario, con tus listas cerradas, tu rey tan prominente, por no decir extraordinario. Tus escaños marcados a ocultas de la gente, a la luz del lingote y del rosario. Me gustas, ya te digo, pero a veces querría tenerte algo más presente y tocarte, palparte, echarte fantasía. Te toco poco últimamente, pero en fin, ahí estás. Mucho peor sería que te esfumaras.
On a toujours dit que les sociétés latines et plus généralement méditerranéennes, contrairement aux sociétés anglo-saxonnes, ne sont pas très portées sur la participation à la chose publique. Qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement?
Déjà, ce constat est exact, où il était jusqu'en 2010 au moins. Il y a dans l'Europe du Sud une participation qui est beaucoup plus de contestation que de proposition. C'est une participation contre des décisions politiques plus que pour la construction collective de projets politiques. De ce fait, on est très, et ça, en cela, l'Espagne et la France sont assez proches, on est très porté à manifester et beaucoup moins à s'impliquer dans des organisations, qu'elles soient politiques ou sociales d'ailleurs. Donc, parmi ceux qui demandent à pouvoir être pris en compte dans la prise des décisions publiques, cela reste une population minoritaire. C'est-à-dire, c'est porté par des groupes qui sont très minoritaires. Et ce qui est assez frappant, et là aussi la France et l'Espagne se rejoignent, c'est que la plupart des expériences de démocratie participative qui sont menées viennent de l'administration.
Sont impulsées par
les pouvoirs publics. Ce sont elles qui les mettent en place et ne répondent pas à une demande de la société. Et très souvent, elles ont même du mal à obtenir l'implication des citoyens dans ces processus. Après, se pose la question de est-ce que vraiment les sujets qu'ils ouvrent à la participation sont d'un intérêt pour la population. Souvent, ce n'est pas le cas, et c'est ça qui démotive la participation. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a très peu d'expériences démocratiques participatives qui sont le fruit d'une demande sociale.
Il y a eu le précédent des associations de quartier dans les années 70-80.
Donc ça a été un mouvement très fort en Espagne qui a perdu de sa force du fait de son succès. Ayant obtenu la grande majorité
des
de ses revendications,
il
n'a pas su ou il n'a pas rebondi sur d'autres revendications. Et les habitants de ces quartiers aussi s'en sont éloignés. Ça y est, nous avons l'éclairage public, nous avons des rues pavées.
Oui.
Voilà, ce pourquoi l'association...
Et des sanitaires.
Exactement. Ce pourquoi l'association nous était utile, nous l'avons obtenu. Donc on s'en détourne. Donc ça, ça a été un acteur social très fort. Oui. Et c'est assez surprenant actuellement, ou dans les 10 dernières années, ce mouvement des associations, ce mouvement des quartiers, a eu des réactions selon les lieux très différentes aux possibilités d'ouverture d'espaces de démocratie participative. Il y en a qui n'étaient pas encore trop affaiblis, qui s'y sont opposés parce qu'elles voyaient là la perte du monopole de leur relation avec les pouvoirs publics. Ça a été notamment le cas à Cordoue, où la mairie a mis en place des budgets participatifs, suivant le modèle de Porto Alegre au Brésil. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, les associations de quartier y étaient plutôt opposées. Parce que cela permettait... Elles perdaient le monopole. Avant, c'est elles qui étaient en négociation avec la mairie. Et là, l'ouverture de ces espaces leur permettait à elles de parler, mais aussi à d'autres acteurs. Tandis que dans d'autres endroits, les associations qui étaient affaiblies ont vu cela comme une opportunité pour se revigorer. Dans la ville de Madrid, du temps où Alberto Gallardón était maire de Madrid, les mouvements des quartiers ont rebondi sur une proposition du maire de formuler des plans de développement intégral de différents quartiers, dont Vallecas. Et les associations, plus que voir cela comme une perte de protagonisme, en ont profité pour redevenir acteurs et devenir le lien, c'est-à-dire c'est les associations de quartier, mobiliser le voisinage, mobiliser les habitants de quartier. Et donc ça leur a quand même redonné
de la force,
de la force,
présence.
De la présence, exactement. Donc, et puis des cas... qui sont encore plus, pour moi, un cas paradigmatique, pas très connu parce que c'est une commune petite en banlieue de Madrid, à Mejorada del Campo, où là, oui, par contre, l'association de quartier, des habitants, a évolué de son propre chef vers la revendication d'ouverture d'espaces participatifs et en agglutinant autour d'elle d'autres acteurs locaux et en devenant un collectif citoyen dont la base était dans l'association mais qui était ouverte à d'autres acteurs, ils ont obtenu la mise en place des budgets participatifs dans leur commune. Donc là, ça c'est le cas paradigmatique de l'association qui vient d'un militantisme très traditionnel, de négociation directe avec la mairie, à un nouveau type de militantisme plus axé sur la démocratie participative. Maintenant, les mouvements les plus revendicatifs sont plutôt des personnes plus jeunes qui viennent plutôt des mouvements autonomes, donc du fonctionnement en marge de l'administration et pas en relation avec l'administration. Sachant que ces mouvements essaye de travailler d'une manière sans aucune dépendance avec l'administration, donc ont peu de possibilités, et d'ailleurs ce n'est pas nécessairement leurs objectifs, d'avoir une influence sur les politiques publiques. Donc elles préfèrent travailler vraiment à la marge, c'est un choix politique.
Parle là du mouvement des Ocupas.
Exactement. Oui. Après, on peut se retrouver avec des cas où il y a une interlocution à un moment donné. par exemple à Guernica, au Pays Basque, un mouvement autonome a tout de même négocié avec la mairie pour obtenir la gestion et le contrôle sur un bâtiment, une ancienne usine, il me semble, reconvertie en centre culturel. Alors, eux ont juste été en relation avec la mairie le temps d'obtenir la gestion. Et maintenant, ils gèrent ça de manière autonome. Moi, je n'inclurai pas les mouvements autonomes dans les partisans de la démocratie participative. Eux, par contre, oui, certains sont plutôt héritiers de l'anarchisme et donc plutôt favorables à l'élimination des représentants. Mais quand on parle de démocratie participative, un des acteurs est l'administration.
Comment analyser le cas de Marina Leda del Campo et son autogestion ?
Alors, dans le cas de Marina Leda del Campo, on n'est plus sur de la démocratie participative, on est directement sur de la démocratie directe. On n'associe pas la société civile à la prise des décisions, c'est elle qui prend les décisions. Et d'après ce que j'en sais, beaucoup de décisions de la mairie ne sont pas prises au cours des réunions du conseil municipal, mais en assemblée. Donc, on est dans de la démocratie directe. Est-ce que c'est exportable ? Oui, certainement. Ça marche là-bas depuis plus de 10 ans. Ça doit marcher plus ou moins bien selon les sujets. Là, je n'ai pas les détails qui me permettent d'en juger. Mais dans la mesure où ça marche dans une commune qui n'est pas si petite que ça,
et il,
c'est 5000 habitants, il me semble. Il y a énormément de communes de cette taille ou plus petites dans lesquelles ça pourrait également fonctionner. La première décennie de notre siècle en Espagne a été très productive en termes d'expérimentation démocratique. Il y a eu énormément d'expériences mises en œuvre. Et c'est avec l'arrivée de la crise et donc le manque de moyens des pouvoirs publics de répondre aux demandes que cette dynamique s'est tarie. D'une part, du fait que les administrations publiques n'étaient plus en mesure d'assumer certaines demandes de la population. D'autre part, parce que d'autres administrations ont quand même maintenu les espaces participatifs, mais les décisions qui y étaient prises n'étaient pas suivies des faits. Elles n'avaient pas les moyens de mettre en place les politiques produites de ces processus participatifs. Et ça, ça a eu un effet pervers qui est que les gens se sont éloignés.
Démotivés,
puisqu'ils voyaient, voilà, on a perdu notre temps.
Le 15 mai, c'est un mouvement de rupture ?
Je dirais que c'est un mouvement... Je ne saurais pas répondre catégoriquement, mais par contre, c'est un mouvement d'éveil. Il y avait une société qui était endormie, qui subissait des décisions politiques, qui déjà, le 15 mai c'est 2011, donc depuis 2008, il y a des coupures budgétaires dans les politiques sociales, qui subissait une politique et qui subissait une perte de qualité de vie, mais qui l'a subi pendant longtemps sans y réagir. Et c'est un moment de réaction à laquelle a adhéré par la suite énormément de personnes qui n'étaient pas nécessairement portées vers un changement du système politique, mais qui tout simplement, il y avait un ras-le-bol. Et il y a eu, chez certains, il y avait des convictions bien assises, des demandes d'évolution du système politique, de réforme vers plus de démocratie, une représentativité plus proche du ressenti de la population, avec une évolution du système électoral, des mécanismes participatifs, mais chez d'autres, c'était seulement un espace où exprimer son ras-le-bol, où exprimer son mécontentement. Et certaines de ces personnes qui au début n'étaient que mécontentes sont devenues militantes.
Confluence hispanique, un programme proposé par Imenu Enzar avec Pedro Berastegui à la réalisation. Musique, Macaco, La Llama, Javier Cray, Ay Democracia. Document sonore, archives radio-télévision espagnole.